c'est le printemps. Le printemps, le vrai, pas l'officiel qu'on attendait depuis 6 semaines, mais celui du premier jour des bourdonnements et des bourgeons, des bourgeonnements et des bourdons.
CO2, mon amour.
Les effluves érotiques sont dans l'air qui sent le mur chaud et la sève des sous-bois. Les jours rallongent, mais il n'y a pas que, dit l'obsédé. Tout est dans tout, la concierge est dans l'escalier, le facteur est dans la concierge. Ah, poésie, poésie.
Avec Denis Chessou.
Le printemps, c'est le temps des éclosions jardinières et des fruits nouveaux. C'est le temps honni du bricolage. C'est au printemps, hélas, que le doux employé se meut soudain en brute briseuse de planches, gâcheuse de plâtre ou décapeuse de parquets innocents.
Aïe, aïe.
Sur France Inter.
Bonjour à tous, et c'est parti pour cette émission qui chuchote, qui fait chuchoter la nature et donc le printemps à vos oreilles. C'est Au de mon amour avec aujourd'hui Sofiane Actib à la technique et Camille Blanès et Xavier Pestudia qui réalisent l'émission. Avec quand même une petite humeur d'actualité parce que la mine de charbon était d'un côté, le baril de pétrole de l'autre, le pipeline de gaz au milieu, écoutait avec intérêt la réunion des grands réchauffeurs du climat cette semaine. Car ce sont quand même eux qui les ont sortis de leurs millions d'années de sommeil. Et il y a un truc qui ne trompe pas. Quand le mécanicien de la locomotive commence à courir sur le tender avec sa pelle à charbon, pendant que le chauffeur, penché à sa fenêtre, en perd sa casquette en faisant de grands moulinets avec les bras, c'est que la manivelle des freins est enrayée, qu'on a explosé les soupapes et qu'on est tous conscients qu'on va rater le prochain virage serré, qu'on va donc dérailler et répandre chargement et passagers sur le ballast. Donc c'est bien clair, ce convoi fou va trop vite, et il faudra plus que les 3 troncs d'arbres, vous savez, des frères Dalton posés en travers de la voie, pour stopper sa course avant le long et sombre tunnel du réchauffement climatique. En passant à toute allure, de gare en gare, ce train d'enfer voyait bien s'agiter tous les drapeaux rouges et s'éclairer une à une toutes les alarmes. Mais la vitesse, c'est grisant, c'est fun, c'est le dogme non négociable depuis 150 ans. On maîtrise. Jusqu'à ce que les freins trop longtemps négligés par la maintenance lâchent et que la panique gagne. Et que Bruce Willis ne réponde plus depuis qu'il a pris sa retraite dans le Minnesota. Alors doit-on dire la vérité scientifique aux enfants ? On a tellement chargé la mule en trop plein de CO2 que votre climat est scellé. L'inertie du système est telle que le thermomètre planétaire continuera à grimper et amplifier les phénomènes extrêmes. Bon, ça, c'est fait. Pour nos petits-enfants, c'est très chaud. Ensuite, les actions radicales de nos jeunes qui prendront le pouvoir plus tard peuvent nous envoyer sur une orbite de vie beaucoup plus tolérable. On va donc se vautrer, mais rien n'est jamais perdu. Il est temps de se rassembler, assis sur le ballast au milieu des débris. Américains, merci Biden, Européens, Chinois et toutes les couleurs de la Terre, car les rails d'acier, eux, sont toujours là. Alors il suffit peut-être de changer d'aiguillage, car il n'y a aucune fatalité à poursuivre cet individualisme mondialisé, la folie des années 80, ce capitalisme qui se nourrit du désastre. Mettre des batteries d'intelligence solaire dans nos cerveaux, et dans la soute à charbon, et que sais-je encore. Alors tout le monde, bien sûr, vous allez me dire, veut être neutre en carbone en 2050-2060, sans engagement. En continuant à faire pousser des entrepôts, à ne pas trop contraindre la publicité, donc bras armés de nos pulsions consommatrices, à ne pas changer de modèle agricole bouffeur de forêts du monde, en gardant, on va dire, le monde d'avant, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, en le coloriant au crayon vert. Mais ça changera, degré ou de force, mais ça changera. Alors comme on a besoin, quand même, de croire malgré tout en l'hominidée, qui est capable à la fois de s'autodétruire, mais capable de choses admirables qui le dépassent, eh ben on regarde vers les étoiles, vers les stations orbitales, qui, elles, regardent, mesurent le réchauffement de la Terre. Charbon, gaz et pétrole n'étaient pas très inquiets à court terme, assis sur plus de 80% de leur énergie qui fait tourner la réchauffeuse mondiale. Mais ils savent qu'il nous faudra réduire la voilure sans qu'un virus nous l'impose. Et la bonne nouvelle, une voilure réduite et mieux partagée fait toujours avancer le bateau et ne contraint en aucune façon nos rêves. Et nous, on a besoin, eh ben, évidemment, de grand air. C'est le principe de cette émission. Alors, paralysie des humains d'un côté ou pas, le printemps, lui, s'en fiche. Il est là. Il n'est pas forcément à regarder le calendrier, le 20 mars, c'est ce que je vous disais, avec ses chaleurs, ses claques de gel, et puis après, il va se poudrer de vert. Et il va sortir du doux des oiseaux, des lilas, de son sac à dos. D'où cette ronde de printemps. Bonjour Philippe Carvette.
Bonjour Denis.
On a envie de commencer avec vous parce que vous êtes en Baie-de-Somme, vous êtes au parc du Marcantère, vous êtes le responsable pédagogique et scientifique de ce parc qui est formidable. Hein. Donc on n'est pas loin d'Abbeville, on n'est pas loin de rue, on n'est pas loin du Crotoy. Et alors là, je sais, parce qu'on a fait pas mal de reportages, on en fera d'autres, mais vous êtes sur votre point de vue. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez, Philippe Carouette, sous les yeux? Comment se passe ce printemps?
Ah, tout à fait, on est au point de vue du parc, on découvre toute la Baie-de-Somme, les 200 hectares du parc avec une superbe lumière limpide. Et puis ce matin, malgré le vent de nord, c'est la valse, comme on est dans une ronde de printemps, c'est la valse des courlis corlieux. On a plein de limicoles là qui remontent vers le nord, c'est vraiment magique.
Hein. Alors les courlis, ça veut dire, enfin le courlis, ça veut dire c'est courbé, hein, je crois que c'est ça l'origine du nom.
Voilà, tout à fait, le courlis, c'est le bec courbé vers le bas, hein, et là c'est le courlis corlieux qui arrive de Guinée-Bissau, qui arrive des mangroves du Sénégal, hein, et qui remonte vers l'Europe du Nord.
Et alors tenez, écoutez là, voilà, parce que là nous avons aussi une de vos amies que vous avez sous les yeux peut-être, c'est la Vaucette.
Ah oui, les Avocettes, oui, qui sont arrivés aussi. Hein. Ils arrivent un petit peu moins loin. Ils arrivent du Maroc et ils commencent à s'installer pour nicher sur le parc du Marcantère. Ils sont passés avant par Noirmoutier, par l'île de Ré, par plein d'endroits où il y a d'autres personnes qui les ont observés.
Mais alors, ce qui est formidable, c'est quand même que ces oiseaux, pour certains, là, vous avez parlé de ce coulis corlieux, il va passer très très peu de temps. Il vient de Guinée-Bissau, puis à l'arrivée, il va se retrouver en Islande, il part de la mangrove, il arrive chez vous, on va dire, dans les prairies à vaches, et puis après il va continuer vers quoi? Vers les volcans d'Islande ou...
Ah oui, complètement. C'est ça qui me fait rêver, moi. C'est de se retrouver à manger des crabes verts dans les palétuviers de Guinée-Bissau, d'être dans des prairies à vaches, oui, et puis il va remonter jusque l'Islande, et il peut s'arrêter quelques instants, quelques heures, prendre des réserves de nourriture, et hop, filer, il va faire 1000-1500 kilomètres dans sa journée, ou dans sa nuit.
Alors, écoutez, parce que là, nous avons quand même cet animal, on va dire, qui est aussi emblématique. On se dit, oui, notre cigogne est alsacienne. Eh ben non, elle n'est pas qu'alsacienne, il y en a beaucoup plus, d'ailleurs, en Normandie, en Charente-Maritime. Et d'ailleurs, elle a fait, c'est la photo de Télérama pour présenter donc CO2 Mon Amour cette semaine. Donc là, on a une très très belle, en parlant de la Baie-de-Somme. Où en sommes-nous avec les cigognes?
Alors, les cigognes, c'est des premières naissances. Déjà, nous, on a eu des premières naissances il y a quelques jours sur le parc du Marcantère, plus au sud. Il commence à nourrir les poussins, mais il peut encore y avoir des migratrices qui vont nicher tard, des oiseaux de 3 ans, qui arrivent encore jusque début mai, qui vont continuer sur la Belgique et les Pays-Bas.
Alors là, on passe quelques sons, mais pour vous aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette description, il y a ce moment, on va dire, de partage avec la nature, où on se fond dedans. Mais qu'est-ce qui, pour vous, est un élément fort de la protection de la nature?
Ah, c'est la migration, par exemple, c'est l'anti-indifférence. Là, il y a des yeux qui sont dans le bassin d'Arcachon, qui sont à Belle-Île-en-Mer, qui regardent les oiseaux. Ces yeux, ils vont arriver jusqu'à nous. C'est le partage des yeux. Et puis, c'est aussi, parfois, dans les villages, là, j'ai des personnes qui me disent, tiens, on a vu la première hirondelle, on a vu le premier martinet. Quand j'entends ça d'une personne qui connaît parfois pas forcément bien les oiseaux, je me dis que rien n'est perdu et que leur regarder, faire attention, avoir des émotions, c'est déjà le premier pas vers la protection de la nature. Et après, on fera des pas plus grands, mais jamais sans l'émotion et jamais sans la passion.
Voilà, et jamais peut-être aussi sans les épareuses qui font un peu n'importe quoi dans la taille des haies, parce que ça, c'est aussi votre coup de gueule. Ça veut dire que vous avez du travail mal fait, il faut quand même bien le dire. Vous avez des haies qui sont absolument indispensables et qui vont vous bousiller tout, les nids, etc. Enfin, ça, vous aimez pas.
Ça, hein. Ça me choque énormément. Mon père verrait ça. On fait pas ça dans son jardin. Et là, au bord des routes, parfois, certains agriculteurs, hélas, et pourtant, j'aime l'agriculture et les éleveurs, mais on va bousiller les en faisant un travail mal fait, un travail sale, et ça, c'est pas juste. Je comprends qu'on puisse tailler bien sûr les pour ça gêne pour passer un tracteur ou pour les voitures, mais faisons un travail propre et la protection de la nature aussi, c'est être fier de son travail.
Alors, grand merci Philippe Carouette. On va se quitter quand même en annonçant le Festival de l'Oiseau et de la Nature, qui est un rituel, évidemment, qui va être là jusqu'au demain et qui va être sacrément donc en ligne cette année. Mais c'est quand même un boulot formidable. C'est donc à Abbeville, en Baie-de-Somme, donc ce Festival de l'Oiseau et de la Nature, cher à mon copain de vélo, donc Henri Sagnier. Merci beaucoup, Philippe Carouette. Et puis à très bientôt.
Merci, à grand plaisir.
Allez, on va poursuivre cette ronde. Ouais, merci.
Milonga, dime si hay algo.
Ça, on signe tout de suite. Hein. Merci donc à Thierry Dupin, notre programmateur. Dom Ladena, c'était donc Milonga. Et où allons-nous?
Chiant, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi.
C'est le printemps.
J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Tout le monde baise à perdre haleine.
Les rues pures, tout est calme.
Les reins des chattes et des hyènes.
Parce que tu trouves ça calme, toi.
Vont endurer du mauvais temps. Car c'est le printemps.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Eh oui, ça c'est Xavier Pessugia qui s'est bien amusé, et il a bien raison. Alors, où allons-nous? Ronde de printemps, donc après la baie de Somme, nous allons à l'île du Beurre, au centre d'observation de la nature. C'est quoi l'île du Beurre? Eh bien, nous sommes au bord du Rhône, à 40 km à peu près au sud de Lyon, et là on rencontre Paul Monin.
Ah, le printemps, c'est l'éclosion des bourgeons, c'est les fleurs au bord du Rhône, et puis c'est des trucs aussi simples qu'une nichée de mésange dans un nichoir en bois à côté du centre d'observation.
Alors, c'est là où nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes face à cette habitation à mésange que vous avez créée, autrement dit ça s'appelle un nichoir, et là je vois une petite antenne.
Ouais, c'est une antenne qui est reliée à une caméra, donc il y a une petite caméra dans le nichoir qui filme le nid depuis le haut, et l'antenne envoie les images dans une télé, dans un écran qui est dans le centre d'observation. Ouais. Du coup, tout le monde qui vient peut voir les nichées sans les déranger.
Donc là, c'est des charbonnières?
Là, c'est des maisons charbonnières, ouais. Les petits sont déjà nés, on entend pioupiouter quand oui. Les adultes arrivent avec à manger.
Et ça va très vite quand même, ça peut... la taille du gamin, là, ça y va.
Ah, ça va à une vitesse extraordinaire. Nous, on voit les images le vendredi, on part en week-end, on revient le lundi. Les petits, ils ont doublé de volume.
Donc le côté tanguy, ils n'ont pas à s'inquiéter, les parents?
Ah non, pas du tout. Ils ont toujours la tête dehors, ils veulent toujours sortir en premier, c'est terrible.
Autre moment du printemps ici, sur cette horripilive.
Autre moment du printemps, on entend le martin pêcheur. On entend tous les chants d'oiseaux. On sait que le castor, il s'est reproduit en février. Là, ils ont fait des petites galipettes dans l'eau, que la femelle doit être en train de faire pousser son ventre et que les petits vont naître en mai, je pense.
Et on va regarder entre le ciel et l'eau. Et là, on a des migrateurs.
Oui, on regarde surtout les oiseaux parce que c'est vrai que c'est le plus facile à voir et c'est le plus marquant du printemps. Mais les milans noirs sont arrivés mi-mars, là. Ils sont très pressés de construire leur nid, de se reproduire. Et on les entend crier souvent dans les peupliers. Maintenant, on attend les loriots avec impatience.
Et le Rhône, il attrape différentes couleurs. Quelles sont celles du printemps?
Celles du printemps, c'est un peu les crues de l'hiver qui s'effacent. Donc on passe du jaune ocre de la Saône qui se déverse dans le Rhône au bleu turquoise, au vert turquoise des eaux des Alpes.
Paul Monin, que l'on retrouvera d'ailleurs le 9 mai, parce que j'en avais profité pour faire un sujet donc sur le Rhône. Enfin, le point de départ, c'était le Rhône, et j'en ai profité pour parler du printemps avec lui sur cette île du Beurre. Ce sera donc le 9 mai dans CO2, mon amour.
l'hirondelle ne fait pas le printemps. Quand on ira vers le froid, ce sera déjà moins la bousculade dans le gîte. Et puis, tôt ou tard, il faudra bien qu'elle mette le nez dans la ferme. Et on verra comment elle se débrouille, la parisienne. Et qu'à voir comment elle s'occupe des framboises. Je viens de jeter un coup d'œil là-bas. Tout est mûr, seulement. Faut se baisser pour ramasser.
Alors nous aussi, nous faisons notre petite migration. On était au nord-est de la France avec la baie de Somme. On est descendu sur le Rhône. Et là, on va repartir un petit peu vers l'ouest avec le Limousin. Rencontrer Jean-Michel Tellière. Lui aussi, on le retrouvera au mois de juin. En Corrèze, donc chez lui. Et là, le printemps est là. Il est naturaliste. Il est technicien environnement au département de la Corrèze. Et là, vous allez voir, avec lui, on va respirer encore plus.
Bonjour Denis Chesson. Bon, c'est la fête. Enfin, on ne peut pas le dire autrement. Les journées se rallongent. Ce paysage gris durant de nombreux mois devient vert, tout fleurit, et puis quelque chose qui m'émeut, moi, par-dessus tout, c'est le retour des migrateurs. Oui. Cette nature qui ne chantait pas ou que peu jusqu'alors commence à s'animer. Mes petites hirondelles qui sont apparues comme tous les ans aux alentours du 1er avril, qui réinvestissent ma grange, ben voilà, on est reparti pour une année, une belle année.
Et toujours en regardant le ciel, il y a ces grues cendrées qui est un de vos animaux, on va dire, fétiches, parce qu'elles passent par là, peut-être qu'elles se posent d'ailleurs.
On utilise souvent le terme d'oiseau totem, en quelque sorte, mais c'est vrai que c'est pas seulement pour moi, c'est tout le petit peuple limousin et le peuple européen. Elle est belle, cette idée de se dire qu'à un moment donné, on est unis autour d'un oiseau migrateur qui part du nord de l'Europe et qui va dans le grand sud jusqu'en Afrique. Cet oiseau, il ne nous appartient pas, et pourtant les limousins, cet oiseau leur est cher, hein, puisque c'est le symbole des années qui passent, des saisons qui arrivent, l'automne, lorsqu'elle tire cette couverture de gris qui arrive, et puis les beaux jours qui nous annoncent tout simplement que le printemps est arrivé. Donc c'est vrai que de voir ces V ou ces W, ces chevrons dans le ciel, et puis ce cri guttural, ce cri qui perturbe, j'aurais presque envie de dire, en tous les cas qui anime, qui réveille, même dans la nuit, qui unit. Parce que même au cœur des villes, on s'arrête de marcher, on sort de son abribus et on regarde les oiseaux et on les écoute et on se dit ça y est, le printemps est là. Donc c'est pas rien, c'est un emblème. Et c'est vrai que de temps à autre, en plus, elle se pose chez nous, et c'est toujours saisissant que ce mythe s'incarne en quelque sorte, hein, puisque quand elles sont dans le ciel, ce ne sont que des points et que des cris qui vont d'un point A à un point B, mais lorsqu'elles sont au sol, on se rend compte que ce sont d'immenses oiseaux, 1m20, c'est les plus grands oiseaux d'Europe.
On vous les offre là, parce qu'on a une passée avec toujours donc cette conductrice ou ce conducteur, ce vol en V, parce qu'on profite de l'abri de l'autre, hein, comme un peloton.
Ben, cette technique, vous la connaissez, vous la pratiquez d'ailleurs. Ah oui. En effet, quand on est devant, 30% d'énergie en plus que l'on dépense, mais ceux qui sont derrière se protègent, se préservent. C'est une belle idée ça. Et on passe le relais évidemment, parce qu'on est solidaire chez les grues, comme de le peloton du Tour de France. Oui. Donc voilà, c'est une belle image que l'on voit tous les ans et qu'on voit de plus en plus, puisque la grue cendrée, pour le coup, n'est pas un oiseau dont les effectifs se cassent la figure. Bien au contraire, les populations augmentent et on s'en félicite.
Toujours ce printemps. Le vert tendre s'est déjà bien installé, on commence à passer sur un petit vert foncé. On a nos hêtres, qui est quand même l'arbre symbole du Limousin avec le châtaignier. Qu'est-ce qu'ils vont abriter donc ces arbres ?
Ils vont abriter une vie qui va forcément s'animer sans tarder. Quantité d'oiseaux vont se reproduire, certains vont nicher à même le sol, au pied des hêtres là, que vous me décrivez, ou au pied des charmes, ou peut-être de ce pin sylvestre. Donc des oiseaux vont naître aussi bien au sol, chose étonnante, mais aussi dans la canopée, dans les arbres. Et puis ça va être cette effervescence, c'est-à-dire cette animation intégrale de la forêt. La forêt, elle était morte durant l'hiver, elle va être morte, osons le dire, durant l'été. Tout le monde va s'éteindre, tout le monde va se taire, mais en ce moment, c'est ce cœur formidable d'oiseaux qui chante et voilà qui nous dit qu'il y a des choses à faire, des choses à voir. Et ce qui profite pour les oiseaux l'est aussi pour l'homme, parce qu'évidemment c'est un bien-être que de se balader dans ces forêts vivantes.
Alors, on est au bord de cette rivière, on n'est pas loin donc de cette Maronne d'un côté, de la Dordogne de l'autre, bon, qui sont aujourd'hui canalisé, parce que donc il y a du barrage. Il y a quand même une vie aquatique qui est là. Et puis ça remonte, ça dévale. Ça...
Alors le Limousin est une terre d'arbres et d'eau. Hein. Beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau. De l'eau qui ruisselle de partout. On est sur du granit, de l'eau de surface. Mais une eau qui est vivante, parce que même s'il y a des barrages qui entravent ces cours d'eau, au pied de ceux-ci viennent se reproduire le grand saumon, viennent migrer les anguilles ou les aloses, donc quantité de poissons migrateurs qui reviennent chaque année aussi de manière immuable dans nos rivières. Et puis aussi la présence, on le sait moins, mais de mollusques extraordinaires, comme par exemple cette petite moule perlière. Songez qu'il existe dans nos ruisseaux du Limousin. Plus qu'ailleurs, une moule bien plus grosse que celle maritime, qui est à peu près de 20 cm, qui peut vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, qui, pour certains individus, peuvent produire des perles nacrées. Marie de Médicis emportait je ne sais plus combien de milliers sur sa robe lors du baptême de son fils. Donc, c'est vraiment un organisme vivant, emblème de la qualité de nos eaux. Là où il y a de la moule perlière, l'eau est de qualité et nous avons des très belles populations de moule perlière partout en Limousin.
On a donc ces forêts, on a donc ces eaux, puis on a aussi ces plateaux. On pense bien sûr au plateau des mille vaches, donc les mille vasques, donc les mille sources qui sont là. Et on a là, un petit peu au loin quand même, cette robe rousse brune de nos limousines qui sont là, un peu rangées. Elles aussi, évidemment, elles ont attendu le printemps, elles sont sorties des étables et là, elles se régalent.
C'est un paysage harmonieux, notre Limousin. Alors bien sûr, on ne rivalise pas avec les très hautes montagnes prestigieuses ou le bord maritime, évidemment avec les océans. Mais c'est un paysage tout en rondeur, tout en harmonie, un paysage qui a vécu, un paysage qui a accueilli des générations de Limousins qui ont été durs à l'ouvrage, qui ont beaucoup migré d'ailleurs. Et en effet, bah, autour de nous, des prairies vertes avec des vaches limousines qui sont le reflet de notre société rurale, un territoire qui a été plutôt abandonné par les hommes, mais de plus en plus qui est regagné par ces mêmes hommes qui viennent ici rechercher la qualité et un cadre de vie exceptionnel.
Alors pour vous, le printemps, alors l'arrivée c'est fait, mais le cœur du printemps, ça se traduit comment ?
Le cœur du printemps, pour moi, c'est vraiment la migration des oiseaux et puis aussi toutes les petites fleurs et les teintes de couleurs qui s'animent dans la nature. Vous le disiez tout à l'heure, des verts tendres, des verts plus durs, et puis le couvert végétal, le couvert forestier où on a quantité de petites fleurs qui viennent animer, des anémones qu'on a à nos pieds, un petit peu plus loin, les jacinthes qui sentent merveilleusement bon, là, qui vont bientôt fleurir, hein, c'est le plus beau parfum de la nature. Et puis des plantes liées à l'homme, telles que muguet aussi, aux anglais, hein, au 1er mai, rien de meilleur que le parfum du muguet. Donc voilà, c'est toute cette petite nature ordinaire qui se réanime, comme par magie, chaque printemps.
Merci Jean-Michel Tellière. On va poursuivre cette ronde de printemps avec d'autres intervenants, et puis à très bientôt.
À très bientôt, avec plaisir.
Un formidable raconteur, vous en doutez, donc que l'on retrouvera d'ici quelques semaines, donc chez lui, dans le Limousin, dans cette très très belle Corrèze. Et puis aussi donc mon coloriste qui a sorti sa boîte, donc Xavier Pestudia. Et figurez-vous que dans quelques instants, eh bien, la voix de Jean-Marie Pelt nous attend. Il nous parlera des plantes.
Assis sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines que leur jette un petit enfant blond. Le nez en l'air, les yeux dans le ciel, le cœur tout à cette tourterelle. Il vit de son sac de millet, dans les roucoulements satisfaits. Toi l'enfant blond, roi des pigeons, je voudrais que tu viennes dans ma chanson pour que t'y mettes ta gentillesse. Tu sais, le monde en a besoin. Regarde autour de nous, ça va pas bien. Les gens font peur à nos ramiers et les dérangent sans s'excuser. Sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines que leur jette un petit enfant blond. Le cœur léger comme une bulle d'air, il fait sourire ses grands yeux clairs. Quand les oiseaux pour réclamer viennent lui picorer le bout des pieds, dans ses yeux il y a tellement d'amour que tous les piou-piou des alentours viennent se poser sur son épaule, en lui roucoulant des mots doux, en le chatouillant avec leurs plumes dans le cou, pour que résonne son rire d'enfant au milieu des fleurs du printemps.
C'était un créateur très sensible, Hervé Christiani, Les Pigeons.
CO2, mon amour.
Tommy Ungerer, juste une petite question. L'arrivée du printemps, est-ce que ça vous met en joie en Irlande?
Il y a à foutre avec les festivités. Hein.
Mais je parle simplement de la saison. C'est-à-dire lorsque le printemps arrive, ça vous plaît quand
mais
vous quittez...
Mais pourquoi donner une date aux saisons?
Très bien, oui.
Écoutez, moi, je suis un homme libre. Les saisons, c'est tous les jours. Ma vie n'est pas dictée par des années ou par des saisons.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite joie lorsqu'il y a des bourgeons qui se mettent à éclore chez vous?
Ah mais évidemment. Moi, mon idéal, c'est une feuille morte qui commence à bougeonner.
Sur France Inter.
Bon, c'est ça qui était formidable avec Tommy Ungerer, formidable illustrateur, c'est qu'on dans une interview, bon, vous aviez votre préparation, certes, mais vous aviez sacrément intérêt donc à vous adapter. C'est aussi ça le bonheur de notre métier. Le printemps, c'est donc la fête des plantes, et comme elles ne sont pas là que pour faire joli, ben non, elles sont là pour se reproduire de toutes les couleurs, pour attirer les insectes. Elles vivent leur vie végétale et donc doivent se défendre. Retrouvons la voix de Jean-Marie Pelt, botaniste, raconteur du vivant, un printemps à lui tout seul, même quand il était dans l'hiver de sa vie. Et ça commençait rituellement ainsi.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Ben, les animaux mangent des plantes, et si les plantes ne se défendaient pas, elles seraient déjà toutes mangées. Il n'y aurait donc plus d'animaux, et nous ne serions pas là pour le dire.
Exactement, car nous en avons besoin, c'est voilà. Indispensable.
Et alors les plantes, ce qu'on sait très peu, ont des quantités de systèmes qui gênent la prédation des animaux et qui la diminuent et qui la régulent par conséquent.
Tu veux dire qu'elles ont quand même un certain nombre de sens, c'est
bon. Oui, le système de prédation est un système régulé. Alors on le voit dans de nombreux cas, les plantes sécrètent des produits que les animaux n'aiment pas. Et ces produits sont souvent des tanins, qui rendent les protéines indigestes et complètement indigestibles, et donc l'animal ne peut pas consommer. On connaît ça chez les antilopes, on connaît ça chez les chenilles.
Comment ça fonctionne, ça?
Alors ça fonctionne d'une manière subtile. Quand elles consomment de ces plantes qui contiennent les tanins, elles restent sur leur faim. Et alors, ce que sachant, un certain nombre de plantes sécrètent des tanins lorsqu'elles sont broutées. Et la teneur en tanins dans les feuilles augmente, de sorte que le broutage devient de moins en moins efficace et que les animaux cessent de brouter. Alors ils vont sur les acacias, par exemple, s'il s'agit d'antilopes, voisines. Et les acacias voisins ont curieusement aussi fabriqué des tanins. Pourquoi ? C'est là que c'est subtil, parce que les premières plantes qui ont été broutées, les premiers arbres broutés, ont émis dans l'air un gaz qui s'appelle l'éthylène,
qui a été reconnu
par les autres, ouais. Et quand l'éthylène les a touchés, elles se sont dit « Attention, il y a des prédateurs à proximité, je fais des tanins. »
Donc, mieux que le portable, la communication entre les plantes.
La communication entre les plantes par gaz. Ouais. Et alors, les antilopes qui sont devenues intelligentes à ce système vont plus loin brouter là où l'éthylène n'a pas pu arriver. Et là, naturellement, les arbres ne contiennent pas de tanins. Et puis, elles les broutent de nouveau. Et puis, l'éthylène est de nouveau émis. Et c'est pour ça que quand on voit comment se fait la prédation, on s'aperçoit que les prédateurs, les brouteurs, par exemple, ne broutent jamais tout au même endroit. Ils se baladent. Quand on met des vaches dans un champ, elles font des tâches un peu de tous les côtés. Oui. Elles ne tondent pas comme une tondeuse. Hein, c'est très, très différent.
C'est pas régulier, bien sûr.
C'est pas régulier du tout. Et c'est probablement dû à des mécanismes de ce genre-là qui régulent la prédation. Alors, il y a des systèmes qui sont encore beaucoup plus sophistiqués. Mm-hmm. Il y a le cas du haricot qui est marrant comme tout. Quand il est infesté par des acariens qui sont des petites bêtes qui le mangent, alors, il a un moyen de défense, il émet un bouquet de substances volatiles. Et ces substances appellent à la rescousse des prédateurs de ces acariens, qui sont d'autres acariens qui mangent les méchants acariens, qui mangent les haricots.
Ah,
et les haricots est débarrassé.
C'est un gang, quoi. Il a des alliés.
Il a des alliés, oui. Alors, il y a beaucoup de cas de ce genre. Le maïs, quand il est attaqué par des chenilles, émet un mélange de substances qui attire les guêpes. Et les guêpes pondent leurs œufs dans les chenilles. Mais ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que ce sont les sottes de chenilles qui sont sur le maïs qui émettent le produit qui attire les guêpes. C'est-à-dire qu'elles font de l'autosuicide. Quand elles font le mal, elles se punissent elles-mêmes.
Oui, ça doit vous plaire.
C'est marrant, non? Voilà. Quand elles font du mal au maïs.
Oui, je comprends bien.
Voilà, elles se punissent elles-mêmes.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine,
c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé.
Vous avez rien pour les tomates, hein, parce que ça c'est quand même...
Ah, les tomates, oui, oui, il y a un truc pour les tomates aussi.
C'est un fruit, rappelons-le.
La tomate est un fruit, quand elle est agressée par un insecte, elle produit dans l'air un produit qui s'appelle le méthyljasmonate, c'est joli, hein. Jasmonate, ça sonne bien.
Je ne sais pas si je vais le retenir, mais en tout cas c'est le méthyljasmonate.
Le méthyljasmonate, qui déclenche chez les autres tomates la fabrication d'un insecticide. Et du coup, la tomate devient insecticide et les insectes ne vont plus sur elle. Donc il y a des quantité de mécanismes très subtils, mais qu'on connaît encore très très mal.
Ça veut donc dire que si on en sait plus dans ces mécanismes complexes, peut-être qu'un jour on utilisera moins de produits alors.
Ah ben, on utilisera moins de pesticides et on fera jouer ces mécanismes-là, et ça sera la lutte biologique.
Oui.
On utilisera les mécanismes de la nature, parce qu'il est évident que quand on arrose tout ça avec des pesticides, ça marche plus après. Parce qu'on
dérègle
on dérègle tout le système naturellement.
Jean-Marie, est-il possible de dire que les plantes ont véritablement des sens et lesquels ?
Ben ici, nous voyons qu'elles ont visiblement un sens tactile, parce que lorsqu'elles sont touchées et agressées mécaniquement, eh bien, elles répondent d'une manière positive pour se défendre. C'est effectivement un sens.
Elles savent aussi lire la durée du jour et de la nuit.
Elles savent lire la durée du jour et de la nuit, absolument. Elles émettent des odeurs qui jouent des rôles dans la pollinisation. On pourrait rechercher, on pourra le faire d'ailleurs, rechercher les cinq sens des plantes et on les retrouverait.
Elles évaluent la température.
Elles évaluent la température, absolument. Elles lisent la longueur des nuits. Quand arrive le printemps, les nuits deviennent de plus en plus courtes. Et lisant la longueur des nuits, elles se mettent au travail.
Et donc elles reconnaissent l'agresseur et peut-être l'ami, non ?
Elles reconnaissent aussi l'ami, oui, avec laquelle et lequel elles font des symbioses très remarquables ou des commensalises.
Oh là là, lui aussi, quel formidable raconteur donc il était. Et, de temps en temps, je pioche dans les 400 ou je crois 450 séquences que nous avions donc réalisées ensemble. Et je me dis, mais c'est quand même sacrément intact, sauf les côtés actualité. Mais sinon, c'est quand même sacrément intact. Il était un beau visionnaire. Nous continuons donc cette ronde, nous la terminons. Ah, on a besoin d'embras. On a commencé avec le Marcanter. Donc on est évidemment pas loin de la mer, avec cette mer qui rentre dans la terre. Ça, c'est l'origine du mot Marcanter. Nous allons à Belle-Île. Bonjour Romain Solo.
Oui, bonjour Denis.
Alors, je suis ravi de vous avoir parce que vous êtes garde animatrice à la Maison de la Nature, dans la Com-Com, comme on dit, de Belle-Île. Vous avez 25 ans, passion nature, voilà. Et on est bien sûr sur l'île la plus au sud de la Bretagne. Bon, en général, vous avez, je me semble-t-il, 6000 habitants à l'année. Alors, fois 10 au moment de juillet-août, donc ça pose aussi quand même de sacrés problèmes. Où est-ce que vous êtes exactement? Parce que je sais qu'on a à la fois, on peut très bien avoir les aiguilles de Port-Coton qui était cher à Monet, on peut être de l'autre côté, on peut être à Sozon. Où êtes-vous exactement?
Alors là, je me trouve plus du côté de Sarah Bernard, hein, sur son ancienne propriété à la Pointe des Poulains.
Ah oui.
Et si je peux rebondir sur ce que vous aviez dit, en fait, la Maison de la Nature s'est transformée en Maison du Littoral actuellement. Voilà.
Maison du Littoral pourrait tout à fait précis. Alors, évidemment, vous connaissez très bien Philippe Carouette parce que vous avez travaillé avec lui. On est donc sur cette pointe de rocher isolée. Comment se traduit, on va dire, allez, de façon végétale, le printemps chez vous à Belle-Île?
Oh bah, le printemps, depuis quelques semaines, s'exprime véritablement. Là, j'ai vu sur une belle pelouse aéroaline. Alors, c'est-à-dire que c'est une pelouse qui subit à la fois les embruns marins et également le sel, enfin le vent, tout ça. Et en fait, autour du petit phare des Poulains, on a un beau tapis rose qui est composé de nombreuses armeries maritimes, ou plus poétiquement parlant, on l'appelle également le gazon d'Olympe.
C'est une merveille, le gazon d'Olympe. Et c'est quoi? C'est 10-15 cm, puisque donc finalement il y a du vent, il y a du sel, donc ça ne doit pas pousser très très haut?
Voilà, tout à fait. Donc en fait, on a ici des plantes vraiment capables de subir, de s'adapter à ces conditions climatiques difficiles. Et comme vous dites, on est autour de 10-15 cm de hauteur.
Donc c'est sensible au piétinement, c'est pour ça que je parlais effectivement du tourisme, parce qu'il faut un peu les canaliser quand même sacrément les touristes. Donc c'est ce que vous faites, c'est un des forts enjeux de conservation. Maintenant si on regarde, allez là aussi dans l'air, parce que les oiseaux habillent complètement cette ronde de printemps, qu'est-ce que nous avons de beau ?
Alors, je suis régulièrement survolée, peut-être que vous allez les entendre, par des goélands. Alors, faut savoir qu'à Belle-Île, on a trois espèces de goélands. On a le goéland argenté, le goéland marin et un animal protégé rare, le goéland brun. Mmh. Et alors, on le distingue des deux autres avec ses petites pattes jaunes.
Oui.
Et faut savoir que c'est un oiseau, c'est un grand migrateur qui va hiverner sur les côtes espagnoles jusqu'en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de la Guinée. Et depuis quelques semaines, eh bien, ces goélands sont revenus à Belle-Île pour se reproduire. Et actuellement, la colonie s'agrandit petit à petit. On a de nombreux accouplements. Et c'est très compliqué quand vous passez à côté de discuter, bah, parce que ils crient beaucoup entre eux. Les nids sont proches les uns des autres. Et c'est simplement de la défense territoriale.
Voilà, c'est juste ça. Donc on les écoute. Et essayez d'apprendre le goéland français. Et puis ça peut fonctionner. Juste très très vite, votre parcours. Parce que vous avez fait un BTS de gestion et de protection de la nature à Arras. Vous avez 25 ans. Et après, comment ça s'est passé?
Eh bien, en fait, j'ai fait d'autres études. J'ai fait une licence professionnelle dans tout ce qui est inventaire faune-flore à Lyon. J'ai ensuite fait mon contrat de professionnalisation de guide nature avec Monsieur Philippe Kervès en Baie-de-Somme. L'année dernière, un service civique dans une autre maison du littoral à Plougrescan, où j'ai fait des missions de garde, voir si tout se passait bien sur le site. J'ai fait des animations, des actions de gestion. Et aujourd'hui, je travaille en tant que garde animatrice à la maison du littoral, à la Pointe des Poulains.
Eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est, parce que vous avez compris qu'on était un petit peu serré quand même, cher Roman, c'est de venir un jour et de faire vraiment un reportage un peu plus en profondeur sur Belle-Île. Donc, merci à vous, merci à Sofiane Actib à la technique, à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission. Les podcasts, vous en avez l'habitude, je reviens pas là-dessus. Denis Chessou, le Twitter, si vous le souhaitez, et que vous souhaitez d'autres, eh bien, évidemment, une très bonne fin de dimanche.